Bonsoir Patrice Tordjouan.
Bonsoir.
Vous êtes le ranger du parc national du Mercantour, on dit comme ça, ou il y a un nom français?
Non, on dit garde-moniteur.
Garde-moniteur, ça veut dire quoi?
Ben, disons que garde, comme son nom l'indique, on est là pour protéger le territoire qui nous a été confié. Ben, si possible, rendre en aussi bon état, si ce n'est en meilleur état qu'on nous l'a confié en arrivant.
Vous êtes le seul ou il y en a d'autres?
Non, mais il y a 68 500 hectares. Donc,
ça fait un peu beaucoup pour une seule personne.
Oui, il me faudrait une cape de Superman pour surveiller tout le parc. Tout ça.
Alors vous êtes combien?
On est 34 sur
34.
Terre.
D'accord. En partenariat avec la Fondation Albert II et le Parc Naturel des Alpes-Maritimes Italiens, le Parc du Mercantour fait aussi un inventaire exhaustif de la biodiversité. Vous le faites depuis 2007. C'est un inventaire généralisé. Qu'est-ce que vous recherchez?
Bon, un inventaire généralisé, on va donc inventorier durant les années qui viennent l'ensemble des ce qu'on appelle les taxons, c'est-à-dire les espèces, les groupes d'espèces, aussi bien végétales qu'animales, avec juste une restriction, c'est qu'on se cantonne à ce qu'on appelle le pluricellulaire et on n'inventorie pas donc ce qu'on pourrait appeler les micro-organismes. On va pas jusqu'à inventorier les virus et les microbes. Voilà. Mais sinon, on inventorie absolument tous les groupes d'espèces, y compris les moins connus, comme évidemment les insectes, et puis chez les végétaux, les mousses, les lichens, les champignons, etc.
Ça va prendre combien de temps pour faire cette liste?
Mais écoutez, on ne sait pas trop, mais nos collègues de le premier parc mondial qui a été retenu pour ce type de démarche, c'est dans les Appalaches, le parc des Smoky Mountains. Eux, ça fait 10 ans qu'ils inventorient et ils pensent toujours ne pas avoir terminé. Donc on est parti pour quelques années de travail.
Ça se compte en années ou en dizaines d'années?
Et normalement, ça devrait se compter en années, mais on va déjà inventorier un certain nombre de groupes sur lesquels il n'y a quasiment pas eu de recherche. Et on va avancer progressivement, mais la particularité de cet inventaire, c'est que par définition, on ne peut jamais savoir quand il est fini.
Oui, parce que la biodiversité, c'est un peu comme un iceberg. Il y a une petite partie qu'on voit, qu'on connaît, et puis il y a une très grosse partie qu'on ne voit pas. Alors, ce qu'on ne connaît pas, pourquoi est-ce qu'on est passé à côté, finalement?
Alors, ce qu'on ne connaît pas, c'est un peu trivial, mais c'est tout simplement ce qui est de plus petit. Et puis, il y a une autre raison aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de milieux, ce qu'on appelle les écosystèmes, qui n'ont pas été inventoriés parce qu'ils sont difficiles d'accès. Moi, je peux prendre un exemple puisque c'est moi qui m'en occupe pour le parc du Mercantour, sont les milieux souterrains, tout simplement les grottes et les gouffres, qui n'ont pas été prospectés aussi bien parce qu'ils sont tout simplement difficiles d'accès. Il y a d'autres milieux aussi un peu particuliers, c'est les environs de tout ce qui est neige éternelle, les glaciers, du fait de l'altitude aussi, ont été un peu négligés pour l'instant, etc. quoi.
Qu'est-ce que vous avez découvert de nouveau depuis que vous faites cette liste?
Ben là, on a une très grande satisfaction, c'est qu'on a des espèces qu'on appelle nouvelles pour la science, c'est-à-dire qui ont été découvertes dans le Mercantour et décrites et qui font maintenant partie de la biodiversité mondiale et qui ont été découvertes et pour l'instant ne sont connues que dans le Mercantour.
Ce sont des fleurs?
Non, il y a aussi des fleurs, mais là, moi, je parle des espèces d'insectes cavernicoles et de petits crustacés très particuliers qui vivent dans les interstices des nappes phréatiques. Donc, évidemment, des milieux très, 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 très secrets pour l'instant.
Et ce sont des insectes qui n'existent nulle part ailleurs ou qui n'ont jamais été recensés ailleurs?
Alors, la particularité de ce travail qu'on appelle la taxonomie, c'est qu'il y a l'endroit où il est découvert et où ils sont décrits. Mais évidemment, après, les recherches continuent et peut-être qu'un jour, on trouvera le même insecte, dans la province de Cuneo ou dans le Var, ou etc. quoi. Mais pour l'instant, il n'est connu et décrit que dans le Mercantour.
Comment apparaissent ces différences entre les espèces? C'est par la génétique?
Alors, normalement, on doit pouvoir faire une description qu'on appelle morphologique. Mais bon, souvent, on fait appel à ce qu'on appelle le barcoding, c'est-à-dire on fait un complément par l'analyse génétique pour certaines espèces qui sont très très proches.
Donc ça vous demande des moyens assez importants. Il y a un inventaire possible aujourd'hui parce qu'on a les outils technologiques nouveaux.
On a l'outil technologique et évidemment ce qui va avec c'est l'outil financier bien entendu.
Ouais.
Et en cela on est bien aidé évidemment, vous le savez, par la fondation ici à Monaco qui participe beaucoup à ce projet d'inventaire. Et maintenant des crédits européens conséquents qui vont nous permettre d'aller plus loin dans certaines prospection.
Les espèces qu'on ne connaît pas, on les appelle les espèces négligées, c'est ça?
Alors, c'est les espèces négligées, c'est les espèces inconnues. Comme vous dites, c'est la partie invisible de l'iceberg. Et il est bien difficile d'estimer. Moi, je suis un peu admiratif et un peu sceptique, pour être franc, sur les chiffres qu'on donne, sur le nombre d'espèces inconnues, moi je trouve que c'est...
Par définition, si elles sont inconnues, c'est difficile à identifier,
effectivement. Voilà, c'est très difficile, c'est une espèce de ratio entre ce qui a été découvert et ce qui reste à découvrir. Moi je pense que c'est quand même une grande part de supposition là-dedans.
Alors on va parler de ce qui est beaucoup plus connu. Le loup, par exemple, il est toujours aussi controversé.
Bah écoutez, là, vous tombez pile dans l'actualité. Je ne sais pas si vous avez fait exprès, mais vous devez savoir qu'hier, il y a eu un procès retentissant au tribunal de Gap, puisque bon, un loup qui avait été tué lors d'une battue au sanglier, le chasseur a été condamné. Donc là, c'est en appel, mais voilà, il a été condamné parce que le loup est une espèce protégée, détestée, mais protégée.
Il a été condamné à quoi ?
1500 euros d'amende pour destruction d'espèces protégées.
Alors, donc on le chasse, on l'empoisonne aussi ?
Alors on l'empoisonne, j'espère que non. Là on pense vraiment que c'est des méthodes qui sont vraiment révolues. Peut-être ponctuellement des actes complètement isolés, mais le poison c'est une vraie calamité pour l'écosystème entier, puisque malheureusement le poison qui est mis sur certaines carcasses qui servent d'appât détruisent beaucoup plus que le loup qui est visé, évidemment.
Le gypaète barbu, c'est un oiseau qui est particulièrement cher au prince Albert II. C'est un oiseau magnifique. Il a disparu au XIXe siècle parce qu'il véhiculait tout un mythe négatif autour de lui. On l'a exterminé parce qu'on disait qu'il mangeait les petits-enfants.
Voilà, bon, il a un handicap pour lui. Je ne sais pas si c'est le plus beau, mais en tout cas, c'est le plus grand oiseau d'Europe.
Il fait combien d'envergure ?
2,80 m. Évidemment, autour de cette taille et de cette présence dans le ciel, il y avait tout un même mythe qui s'était créé, notamment effectivement qu'il emportait les petits-enfants dans les berceaux. Donc ça l'a desservi énormément. Il a été complètement exterminé, il n'en restait plus un seul. Donc de Monaco à la Slovénie, tout l'arc alpin, il n'en restait plus un seul. Et là, c'est vraiment l'exemple type qu'on met souvent en avant, parce que l'homme, il fait beaucoup de bêtises avec la nature, mais de temps en temps, il arrive à réparer certaines de ses bêtises. Et effectivement, avec le prince Albert et puis notre ministre de tutelle, l'année dernière, on a eu le plaisir de réintroduire deux petits gypaètes. Et il faut bien préciser que c'est des oiseaux qui sont nés en captivité et qui n'ont pas été capturés ailleurs pour être introduits ici dans les Alpes-Maritimes. Ça, c'est très important de le dire.
Ils étaient nés où ?
Alors, principalement dans des zoos des grandes villes d'Europe centrale, là en l'occurrence Prague et Vienne.
Aujourd'hui, il est toujours en santé précaire ou il est florissant ?
Oui, il est en santé très précaire. Bon, on a eu une grande joie l'année dernière, c'est qu'on a eu la première naissance en milieu naturel, dans la vallée de l'Ubaye. Et bien, depuis, le même couple, par exemple, cette année, n'a pas renouvelé son exploit. Et on attend toujours la deuxième naissance en milieu naturel dans les Alpes du Sud. Donc voilà, il faut beaucoup, beaucoup de patience.
Et pourtant, c'est vraiment un animal particulièrement utile parce que c'est le stade ultime du nettoyage par le vide. Lui, il mange que tous les autres ne mangent pas.
Voilà, lui, c'est vraiment le dernier maillon de la chaîne des charognards, hein, puisqu'il se nourrit des os eux-mêmes. Et contrairement à ce que j'entends souvent, il se nourrit pas du tout de la moelle des os, il mange les os eux-mêmes.
Il arrive à les casser et à les ingurgiter.
Voilà, il les casse quand ils sont trop gros ou trop longs, et puis il les ingurgite. Et dans les os, il y a toute la matière nutritive, notamment évidemment les protéines dont il a besoin.
D'un point de vue plus général, est-ce que la réintroduction, c'est toujours bénéfique ?
Alors la réintroduction, c'est toujours bénéfique. Nous, dans le cas du Mercantour, on a deux réintroductions qui sont des grands succès. Donc le gypaète et le bouquetin des Alpes. Et après, nous, en fait, en termes de réintroduction, c'est les seules qui ont été faites. Après, il y a une introduction dans les années 50 qui est celle du mouflon, donc qui n'a pas été l'œuvre du parc national puisqu'il n'existait pas à l'époque, mais qui a été l'œuvre des sociétés de chasse. Et là, bon, on peut dire que c'est pas une réussite puisque l'animal qui a été introduit n'était pas du tout adapté à son milieu, puisque bon, venant de Corse et de Sardaigne, dans le Mercantour, avec les hivers très important au niveau de la neige, il a eu beaucoup beaucoup de mal à s'adapter.
Malgré les efforts du parc national du Mercantour, la biodiversité, vous pensez qu'elle régresse ?
Alors dans le parc national, dans la zone protégée, non seulement on espère qu'elle ne régresse pas, mais qu'elle progresse. Bon, le loup, c'est un peu l'exemple emblématique de la réussite de cette restauration de l'écosystème, puisque bon, comme on précise toujours, s'il est revenu et surtout s'il s'est installé et reproduit ici dans le Mercantour, c'est que toutes les conditions étaient réunies, notamment une restauration de l'état naturel de la nature qui était vraiment assez abouti à cette époque-là. Quoi.
Qu'est-ce qui a mené à cette biodiversité dans le Mercantour ? C'est une pollution locale ou des grands problèmes planétaires ?
Ben, c'est un peu les deux. Là. Par exemple, on nous interroge souvent sur le réchauffement climatique. Et certaines espèces, il faut savoir que dans le Mercantour, il y a quelques espèces qui sont des reliques des dernières glaciations, notamment le lièvre variable, l'hermine, le tétralyre, le lagopède. Et ces espèces, on remarque que même dans la zone qui est entièrement protégée, où elles ne sont pas chassées, ben les populations ont du mal à se maintenir. Et on commence à se demander si c'est pas quelque part en relation avec le réchauffement climatique.
Alors, même question que pour l'invité précédent, il y a des espèces invasives qui pourraient menacer la biodiversité dans le Mercantour ?
Alors, nous, dans le Mercantour, on est relativement protégé parce qu'on est en zone assez haute en montagne et on est peu concerné par ce qu'on appelle les pestes végétales ou les espèces invasives. Mais bon, pour l'instant, on est relativement épargné de ce point de vue-là en raison de notre situation quand même très haut en altitude et d'autre part assez loin des espaces urbanisés et où il y a beaucoup d'apports de l'extérieur, de graines, etc. quoi.
Merci Patrice Torgman.
Merci.
Voilà, vous, Martine Garcia, vous, c'est vraiment l'action in situ qui vous motive à Act for Nature, mais très très loin de Monaco, vous travaillez dans le monde entier. Dites-nous un petit peu d'abord ce qu'est cette ONG monégasque.
Alors, cette ONG monégasque a été créée en 2004 sous l'égide du Prince Albert. Olivier Arnoux, que je représente ce soir un petit peu au pied levé, en est le directeur depuis le départ, parce qu'il est cofondateur avec M. Jean-Pierre Pasteur, qui est le président. Et c'est vrai qu'il y a un comité scientifique dont M. Solichon fait partie d'ailleurs, qui étudie les programmes proposés et donc valide les programmes qui seront entrepris. Alors généralement les programmes ont quand même des échéances sur 3 à 5 ans, parce que ce sont des programmes assez, assez importants. 17 ont déjà été réalisés depuis 2004. Il y a 7 programmes en cours aujourd'hui, avec une zone prioritaire plutôt sur Madagascar.
Alors l'idée, c'est de convaincre aussi les populations, c'est de préserver d'abord, bien entendu, mais c'est aussi de convaincre les populations qui pourraient détruire, qui pourraient chasser, qui pourraient coloniser les terrains, qu'il est nécessaire pour eux de protéger, voire d'entretenir les populations.
Absolument. Moi, c'est ce qui m'a intéressé et m'a fortement motivé à m'engager pour cette ONG quand j'ai rencontré Olivier Arnoux. C'est l'aspect humain, transfert de compétences, formation, pédagogie et... je dirais également création d'une microéconomie aussi sur le site. C'est-à-dire que souvent, le grand public a du mal à imaginer qu'en protégeant une petite perruche, comme c'est le cas sur le programme de la Conure à poitrine grise, par exemple au Brésil, ça va avoir des interactions très très fortes sur toutes les communautés locales. Donc ça crée une microéconomie. Ça, sur le programme de MADA, par exemple, sur la protection du Propithèque de Perrier, qui est le troisième primate le plus menacé au monde, quand même, sur la liste UICN, donc c'est quand même considérable. Il reste moins de 500 spécimens, hein, à peu près, un petit peu moins de 300 même. Donc ce qui est important, c'est que ça touche une population de 15 000 personnes. Donc c'est ça aussi qui aujourd'hui est déterminant, c'est d'informer.
Alors actuellement,
et ça marche. C'est heureusement, hein, c'est pour ça qu'on s'engage et que ça continue après 5 ans. Et on informe aussi à Monaco avec donc la semaine de sensibilisation qui a lieu tous les ans depuis 2005 et qui s'appelle Monacologie, qui est organisée en partenariat avec le Stars and Bars et qui aura lieu cette année, donc en 2010, année internationale, du 1er au 5 juin.
Et sur le terrain, les gens prennent conscience qu'effectivement, ça peut leur apporter quelque chose de préserver la biodiversité ?
Oui, alors ils en prennent conscience parce que ça les touche directement, c'est-à-dire que ça crée des emplois. Donc c'est vrai que ce n'est pas uniquement les informer sur le devenir de l'espèce protégée, c'est aussi les impliquer complètement. Et c'est pour ça que, notamment à Madagascar, nous avons un partenaire privilégié qui est l'association ONG aussi Fanambi. Parce que c'est très important dans des zones comme ça qu'on ne connaît pas forcément d'avoir des partenaires fidèles, engagés, actifs et intègres en cohérence totale avec les valeurs de l'ONG aussi ici.
Vous avez combien de programmes au total ?
En tout, en cours aujourd'hui, 7.
Sept.
En cours, voilà.
Et quel est le budget de tout ça ? Ça doit coûter de l'argent. Parce que...
Voilà, alors dans un contexte de crise internationale monétaire et financière, c'est important de créer des événements aussi pour de la collecte de fonds. ça n'est pas simplement de la collecte de fonds. C'est-à-dire que l'importance, c'est aussi de prendre conscience que l'être humain dans la biodiversité, il est un acteur enfin, fondamental, quoi. Donc il y a les animaux, il y a la faune, il y a la flore, mais il y a aussi l'être humain, ce bipède que nous sommes et qui a fait jusqu'ici un certain nombre de dégâts. Alors, moi, j'ai pas du tout un discours alarmiste et Act for Nature, dans toute l'équipe, on est plutôt très très positif et confiant. On travaille sur une dynamique positive et collective et justement en partenariat avec ces structures locales parce que ça induit des conséquences aussi auprès des populations.
Où est-ce que vous trouvez les fonds ? Ce sont des dons ?
Alors, ce sont des dons. Alors, nous sommes partenaires, par exemple, pour le programme du Brésil de la Conure avec une société monégasque dont le président et secrétaire général de l'ONG, qui est la société EMT, et donc en particulier M. Philippe Ortelli. Nous avons la Fondation Albert II, bien sûr, comme partenaire institutionnel qui nous soutient activement par donc, la Direction de la coopération internationale à Madagascar sur le projet donc, de protection, de sauvegarde du Propithèque de Perrier, qui est ce lémurien donc, fortement menacé, et également sur la protection de la mangrove du projet de Bombetuka, bon, qui est en lien aussi, puisque tout est en interaction. Ce ne sont pas des programmes isolés, tous sont en lien les uns avec les autres.
Alors vous parliez à l'instant du conure à poitrine grise, c'est oui. Un oiseau ?
C'est une petite perruche qui a été très décimée par les braconniers pour le commerce d'oiseaux exotiques, hein, parce que c'est un oiseau assez joli, puis assez petit, donc facile à capturer. Et là, le programme, en fait, c'est tout un programme de scientifique, hein, d'analyse un petit peu de l'habitat particulier de cette perruche qui crée son nid à l'intérieur des troncs d'arbres. Donc là, l'idée, c'était donc de protéger les nids qui étaient détruits, en fait. Et donc là, il y a un projet de création d'introduction de nids en PVC. Alors bon, c'est pas forcément très très bio, ça, le PVC, mais suite aux études scientifiques, c'était un matériau qui était très toléré et accepté, en tout cas, par cet oiseau. Donc c'est pour ça que ça a été validé. Et il y a aussi aujourd'hui, donc suite aux études qui ont été menées, des introductions de nids en bois. Parce que ça fonctionne aussi, voilà. Donc
le conure à poitrine grise, on peut le retrouver dans les cages Kemalakai a achetées.
C'est important d'être vigilant, voilà. C'est important de s'informer. C'est pour ça que moi, en tant que consultant en communication, voilà, j'ai apporté cette compétence-là de diffusion de l'information et de travailler sur des nouveaux outils et d'informer. Donc c'est important d'être présent, d'augmenter la visibilité, de communiquer sur ce que nous faisons, parce que c'est vrai que souvent ça se réduit à un public un petit peu limité, déjà concerné par ces sujets et déjà impliqué. Là, c'est important maintenant d'agir. Hein, et c'est vrai que cette année, année internationale, c'est important de le faire peut-être de façon un peu plus forte.
Et vos derniers programmes, vous en parliez, vous y faisiez allusion tout à l'heure, c'est Madagascar.
Alors, Madagascar, c'est l'axe prioritaire parce que c'est un projet énorme. Ça concerne une zone de 87 000 hectares, donc c'est quand même un projet assez ample. Sur 6 ans, c'est quand même un projet qui nécessite un budget annuel de 100 000 euros. Donc, la direction de la coopération internationale, donc le gouvernement, le prince Albert, soutiennent fortement ce projet. Mais nous avons besoin de fonds. Alors, nous organisons d'ailleurs à ce sujet, spécifiquement sur ce programme, le 19 mars, ou carrément un événement. Enfin, nous n'organisons pas, pardon. Anouk serait fâchée. C'est elle qui l'organise et c'est au profit d'Act for Nature. Donc, il y aura une soirée où donc des artistes créeront des œuvres en live et il y aura une vente aux enchères ensuite, dont une partie des bénéfices sera au profit de l'ONG.